Ce matin, ça va être dans Romains 7, 22 à Romains 8, 4. « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois une autre loi dans mes membres qui combat contre la loi de mon esprit et me rend captif sous la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce fardeau de mort? Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Je suis donc assujetti moi-même par l'esprit à la loi de Dieu, mais par la chair à la loi du péché. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car ce qui est impossible à la loi, ce qui était impossible à la loi, parce qu'elle était affaiblie par la chair, Dieu l'a fait en voyant son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et pour le péché, il a condamné le péché dans la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. »
Alors, ça va bien? Vous répondez toujours « Oui ». Qui oserait dire non? Non, il n'y a que Denis qui oserait dire non. Je dois te dire que la gorge me pique, puis j'espère que la voix va tenir. Fait que si vous avez une pensée pour moi, que le Seigneur m'aide. Ça, je suis venu chercher de l'eau tout à l'heure. Et je tenais un matin à faire lire Jonathan pour partir du chapitre 7, pour donner un contexte à ce qu'on va voir ensemble. Et c'est drôle comment le Seigneur, des fois, nous emmène dans des passages. Et ce matin, vers de bonne heure, ce matin, vers 7 heures, j'écoutais les nouvelles et puis... j'ai vu un monsieur qui était déclaré saint à Rome. Je ne sais pas si c'est nous qui ont vu ça. Pas entendu parler de ça pendant tout au Québec, hein? Je me suis rappelé ce matin de bien des choses en voyant tout ça ce matin à la télévision. Et on est dans le chapitre 8 de Romains, un chapitre extraordinaire, où ce que il y a tellement de versets et de pensées bibliques. Juste pour vous donner une idée, Martin Lloyd-Jones a écrit, il a écrit 437 pages, juste sur ce chapitre-là. John Piper a prêché 40 messages sur ce chapitre-là. N'ayez pas peur, je ne m'appelle pas John Piper. Et c'est comme ça, il y a des livres entiers qui ont été faits sur ces chapitres. Et c'est tout un défi pour un prédicateur, que ce soit moi ou n'importe qui, d'arriver ici, puis... d'amener un message. Il y a tellement de contenu dans cela, il faut contrôler notre contenu. Et c'est ce que, par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur m'aide dans tout cela. C'est tout un chapitre. C'est un chapitre où ce que on va voir 21 fois. Il y a trois mots vraiment, vraiment importants dans ce chapitre-là. Un des mots, c'est l'esprit qu'on voit 21 fois. Et notre position en Christ, et qui parle de l'esprit. Dans certaines places, ça parle de notre esprit, dans d'autres places, ça parle de Dieu, le Saint-Esprit. Il y a aussi le mot « chair » qui paraît 13 fois dans ce chapitre-là, qui est très important, qu'on va voir les trois prochaines semaines. On va regarder ensemble jusqu'au verset 11, qui la division naturelle finit au verset 13, que Trevor va conclure cette division-là. Et il y a le mot « affection » aussi, qui est important, qui paraît 6 fois, qu'on va voir nous spécifiquement dans les deux prochaines semaines. Et je veux vraiment partir du bon pied avec ça ce matin, ce chapitre 8. C'est tellement merveilleux. Et comme que Doug a dit la dernière fois qu'il a prêché, c'est bien vrai, que c'est tellement lié à la fin du chapitre 7 qu'on ne peut pas lire partir du chapitre 8 1 sans se souvenir vraiment de ce qu'il dit en arrière. Et à quelque part, j'aimerais vous, tout simplement vous dire, en fin de compte, que vous savez, depuis le chapitre 5, la section 5 à 8 dans Romains, c'est une merveilleuse section qui parle aux enfants de Dieu. Et souvenez-vous le chapitre 5. Ça fait longtemps, là, mais souvenez-vous, on a parlé que nous sommes maintenant en paix avec Dieu. Autrefois, on était sans force, on était des impies, des pécheurs, on était ennemis de Dieu. C'est ce qu'on était avant. Et là, maintenant, en Jésus-Christ, on est justifié, on a la paix, on a la réconciliation avec Dieu, puis on est sauvé. Alors, c'est notre paix. Je l'ai appelé chapitre-là, pour résumer le chapitre, c'est notre paix. Le chapitre 6, c'est notre union avec Christ. Et là, on réalise qu'on est une même plante avec Christ. On est dans une croissance en Christ, unis à Christ, qu'on n'est plus sur l'esclavage du péché. Mais maintenant, on est libéré, n'est-ce pas, de cela dans 6-6, dans ce beau verset qu'on peut lire ici, que je vais vous lire, le verset 6 qui dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous soyons plus esclaves du péché. » On a une union avec Christ. Le chapitre 7, je l'ai appelé « Notre esclavage ». Une réflexion, en fin de compte, sur ce fait que maintenant, on est esclave de Dieu. On n'est plus esclave du péché. On n'est plus sous la puissance du péché, sous la condamnation de la loi. On est sorti de cela. On est maintenant à Dieu. Et tout en étant esclave du péché, on réalise, hein, on n'est plus des esclaves du péché, c'est-à-dire lorsque la tentation vient cogner à notre porte, on réalise qu'on n'est plus obligé de faire comme autrefois, céder à toute tentation et se dire « Ah, je suis fait de même, ce n'est pas de ma faute. » Alors, on est de ceux qui combattent, et le chapitre 7 nous parle de ce combat très intime, l'apôtre Paul, qui lui va nous dire après, certains commentateurs vont vous dire 22 ans de vie chrétienne, fondateur d'Église, qui se permet d'aller dans cette intimité de son cœur des cœurs pour montrer ce combat, cette lutte qu'il y a dans ses membres. Ces instruments qu'il prenait autrefois, hop là, le mot est vraiment beau, ces instruments, ses mains, ses pieds, ses yeux, ses oreilles qu'il prenait autrefois pour faire le mal. L'apôtre Paul, maintenant, il prend les mêmes instruments pour faire ce que Dieu veut, ce qui est bien aux yeux de Dieu. Alors, c'est vraiment quelque chose qui nous parle à nos cœurs qu'on a vu. Et j'aimerais vous dire que le chapitre 8 continue de nous donner, et McGovern-Voice va nous dire que c'est le plus beau, le plus grand chapitre de la Bible, du Nouveau Testament, c'est-à-dire. D'autres vont dire que c'est le chapitre le plus merveilleux, c'est le chapitre on ne peut pas le diviser, il faut qu'ils restent ensemble. On dit toutes sortes de choses sur ce chapitre 8. Ça parle de notre nouvelle vie en Jésus-Christ. Ça parle de notre, comme j'ai choisi le titre, libération. Ça parle de notre vie d'homme et de femme libre dans l'Esprit de Dieu qui marche par l'Esprit sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Quel beau chapitre! J'aimerais dire comme pour débuter ceci. Vous êtes-vous déjà posé la question, quand Dieu regarde la planète Terre, qu'est-ce qu'il voit? Vous allez dire, ben Dieu voit tout, il sait tout, il peut tout, il voit les monicules, il voit les microbes, il voit... Mais lorsque Dieu regarde les 7 milliards d'êtres humains, est-ce qu'il voit 3-4 sortes de personnes? Ceux qui sont religieux, ceux qui sont bienheureux, ceux qui sont canonisés, ceux qui sont saints, ceux qui ne veulent rien savoir de Dieu ou ceux qui veulent savoir quelque chose de Dieu. Comment Dieu voit l'humanité? J'aimerais vous proposer que le Romain nous enseigne que Dieu, dans le chapitre 5, on a vu qu'il y a une humanité sous Adam, la condamnation du péché. Péché, pécheur, en Adam. Et par la chute d'Adam, le monde entier, l'humanité était emmenée dans la désobéissance. Et le résultat de tout cela, bien regardez ce qui se passe alentour de vous. Voilà le résultat. Un monde tricoté pour vivre sa vie sans consulter Dieu. Un monde, une humanité en Adam, sous la condamnation. Et la parole nous présente aussi une nouvelle humanité en Jésus-Christ. Cette nouvelle humanité a passé par la croix. Et c'est là qu'on peut voir dans cette image ce que nous étions avant et ce que nous sommes maintenant. Lorsque Dieu regarde, il voit deux humanités sur la planète Terre. Ceux qui sont sous la condamnation du péché, ceux qui sont condamnés par la loi de Dieu, le miroir de la loi qu'on a vu dans les semaines passées, qui nous montre qu'on ne peut pas atteindre Dieu par nos propres efforts, par les religions tricotées par les hommes, par les œuvres méritoires, qui nous montre que c'est impossible pour nous de plaire à Dieu sans Jésus-Christ, une humanité en Adam, qu'on appelle. Chapitre 5 de Romains, beau chapitre qui nous parle de cela. J'aimerais proposer que chapitre 8 va nous parler de notre nouvelle humanité en Jésus-Christ. Nous sommes des humains, encore dans un corps qui fonctionne comme les autres êtres humains, mais il y a une différence entre nous deux. On est une autre sorte d'humanité. On est citoyens des cieux, nous dit Philippiens. On est des enfants de Dieu, on est nés de nouveau, on est régénérés. On s'est converti, ça veut dire toute la même affaire, on est devenu enfant de Dieu, par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. Et lorsqu'on va entrer dans Romains 8, et d'une manière tout à fait détaillée, l'apôtre Paul va nous décrire justement notre nouvelle humanité en Jésus-Christ, avec détail. Et que le Seigneur nous aide dans ces trois semaines qui viennent, même le reste du chapitre 8, qui est extraordinaire, va nous parler de tout cela. J'aimerais vous dire aussi que c'est intéressant. Ce grand chapitre que plusieurs commentateurs vont intituler « Notre sécurité, notre joie éternelle, le fait que nous sommes sains et saufs », ça commence par « pas de condamnation ». Et ça finit comment? Pas de séparation. C'est le fun, hein? Moi, je trouve ça épatant. Et entre les deux, il t'a des richesses spirituelles, mes amis. Puis je vous invite à lire le chapitre 8 chez vous durant les prochaines semaines. Pour que la parole puisse imbiber en chacun de nous, moi le premier, qu'on réalise cette merveilleuse vérité de Dieu. Ce matin, on avait quoi comme thème? Dieu est fidèle. Véritable. Quel beau chapitre. Pas de condamnation. On va aller plus profond dans ce texte-là plus tard. C'est important pour nous d'y réfléchir comme il faut. Mais ça va se terminer par pas de séparation. Cette nouvelle humanité est sain et sauf en Jésus-Christ. Est-ce qu'on réalise cela? Lorsqu'on annonce le Seigneur Jésus à quelqu'un, on leur dit quoi? Accepte Jésus comme sauveur personnel. Place ta foi seule dans le sacrifice seul de Jésus-Christ. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Tu as la vie éternelle. Tu peux avoir l'assurance de ton salut. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il a performé à la croix. Notre sécurité. Il y a un bon petit livre, et même, je pourrais dire, un petit livre qui a été tiré de religion biblique de R.C. Riley, hein, qui s'appelle R.C. Riley, qui s'appelle « Ils ne périront jamais », qui mentionne 43 versets du Nouveau Testament, qui dit que lorsque tu nais de nouveau, tu ne peux pas avorter spirituellement. Quelle sécurité! Donc, lorsqu'on va se poser des questions en s'en allant, parce que la semaine prochaine, on va aller encore plus en profondeur sur un autre thème qu'on voit dans Romains. Je vais peut-être vous ébranler. Je vais peut-être dire des affaires qui ne font pas votre affaire. Je vais peut-être dire des affaires qui vont remettre en question certaines choses. Parce que je ne veux vraiment pas glisser là-dessus, puis il faut vraiment qu'on soit capable, comme adulte, hein, capable comme enfant de Dieu d'examiner notre foi, de voir si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. À quoi ça ressemble, ça, cette humanité-là? Comment, qu'est-ce qui les fait vivre, vibrer? Où est-ce qu'ils vont porter leurs affections? Où mettent-ils, où est-ce qu'ils mettent tout leur amour, leur passion, leur être, leur capacité? Qu'est-ce qu'ils font avec ce que Dieu leur donne? Et on va se questionner là-dessus et voir des portraits robots de qu'est-ce que c'est un enfant de Dieu qui n'a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et que ça finit qu'il n'y a plus de séparation. Il y a le chaînon d'or dans le milieu qui est extraordinaire aussi. C'est tellement merveilleux comme chapitre. J'aimerais vous parler du cri du cœur pour aller de l'avant avec cela. J'appelle ça le cri du cœur. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? L'apôtre Paul, un homme nouveau, né de nouveau, environ 22 ans de vie chrétienne, il clenche un de ses cris. Avez-vous déjà crié? Je t'en écœuré de faire des péchés. Comment? Avoir marqué, c'est probablement toujours le même. Je suis donc tanné. Comment se fait ça? Je n'ai pas la victoire là-dessus. Comment se fait ça? C'est toujours en train de m'achaler. Il semble, l'apôtre Paul, il est en train de nous dire vraiment, là, écoutez, là, moi, je vis des luttes intérieures. Qui va me délivrer de ça? Donc, on doit admettre, oui, dans ce corps de mort, dans cette enveloppe dans laquelle mon esprit et mon âme est dedans, ce corps de mort que je traîne, cette nature pécheresse, cette tendance vers le mal qui est très, très glissante, qui va me délivrer de ça? Et là, ce cri vient nous chercher et la réponse est là, il y a une délivrance! La délivrance, c'est grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même. C'est intéressant de voir ici que l'apôtre ici, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Il faudrait le dire tout ensemble d'un même trait de voix. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Je suis libéré pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Là, le jugement de la loi, le standard du Père, a été satisfait par Jésus-Christ. Mais je reconnais en moi le fait que sur cette terre, et c'est intéressant que le mot « entendement », c'est un terme assez spécial, très difficile à traduire en français, qui est « nous », qui est le « je suis par mentalité » ou par il est dur à traduire celle-là, hein? par mentalité, par connaissance, par nouvelle nature en moi, esclave de la loi de Dieu. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Je réalise que la rédemption de mon corps n'est pas encore arrivée. Je suis encore en train de combattre le bon combat. Le cri du cœur. Est-ce que vous avez déjà agonisé sur certains péchés dans vos vies? Ou si vous vivez dans le déni puis vous pensez que vous êtes presque tout le temps correct, excepté d'autres fois, l'année passée. Là. Est-ce que vous réalisez, et ça c'est une des choses de Romains 8, il va falloir qu'ensemble qu'on soit vraiment cruel envers nous-mêmes. Puis regarder le péché pour qu'est-ce qu'il est, puis regarder la sainteté de Dieu pour qu'est-ce qu'elle est. Très important. Très important de ne pas vivre dans le déni. Êtes-vous frustré de faire toujours le même péché, ou presque? Êtes-vous frustré d'avoir toujours cette même attitude, ces mêmes réponses, ces mêmes comportements? Puis vous vous dites, même, ça fait tellement d'années que je suis le Seigneur, ça me colle. Ça me colle aux semelles. Il y en a un qui m'a dit l'autre jour, quand tu dis, les bottines ne suivent pas les babines, écoute, on a-tu dit des affaires, puis on a-tu prétendu des affaires, puis les bottines n'ont pas suivi? Pas tanné de ça. Vous n'êtes pas irrité de ça. Ou ça c'est arrivé tellement souvent là, que vous dites, oh, c'est comme l'eau sur le dos d'un canard, puis je pas plus qu'un autre. Puis l'affaire est faite, puis l'esprit est bien disposé, puis on commence à trouver des excuses, puis on se compare. Bien, Romains 8, mes amis, là, c'est l'occasion par excellence d'être cruellement honnête envers nous-mêmes. Puis j'espère que vous n'avez pas le doigt tourné de même. L'autre. Nous. Moi. Puis je vous dis que c'est dur de réfléchir ça. Ça fait des mois que je réfléchis ça. Puis je vous dis qu'à matin, c'est avec crainte et tremblement que je suis devant vous. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, j'ai dit à la table du Seigneur, qui peut dire ici qu'il est 100% pur? Qui a un cœur 100% pur? Qui peut dire ça? On a du nettoyage à faire. On a un combat à faire. Et notre identité en Christ, qui nous sommes, répond à bien des questions. Christ a performé à la croix. Christ a porté nos péchés pour en faire ses péchés. Puis il nous a donné sa justice pour en faire notre justice. Et nous nous présentons devant le trône de grâce et le Père nous déclare juste en Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'elle avait saisi une vérité spirituelle à quelque part. Elle a dit, je n'avais jamais entendu ça. Ah, je ne savais pas ça. Je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois en avant. Quand Dieu nous regarde au travers du sang de son Fils, c'est comme s'il nous regarde au travers de son sang, comme une paire de lunettes. Là. Voyez-vous? Elle dit, je n'ai jamais entendu ça. Je le dis encore un matin, puis je me demande, il y en a qui se disent, Michel, ça fait 10 fois que tu dis ça, arrête de dire ça. Il y a peut-être quelqu'un qui vient juste de le saisir par l'esprit, qui sait que ça veut vraiment dire ça. Parce qu'il est important de savoir qui nous sommes. Qui nous a rachetés. C'est important de réaliser dans quelle humanité nous sommes. Une deuxième chose, c'est la réalité de notre acquittement. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque Jonathan a lu, il a rajouté des mots, qui n'est pas d'un texte original, qui est dans d'autres textes, mais les bons textes réels, c'est pas qu'ils ont marché selon la chair et selon l'esprit, c'est rajouté par un copiste en passant. Ça, je t'avais dit de police traduction. Là. C'est. Ce qui arrive là-dedans, là, c'est que. Parce que ça semble dire le contraire. Si vous lisez ça, il n'y a maintenant aucune condamnation à condition que celui qui marche par l'esprit. C'est l'inverse. C'est comme si le salut conditionnel. Le salut n'est pas conditionnel. Le salut est par la grâce. La performance de Jésus-Christ seul, et c'est par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, qu'on devient juste aux yeux du Père. Plus de condamnation. Dieu lui-même prononce l'acquittement. Nous sommes acquittés ce matin. La parole de Dieu vous acquitte. Vous n'êtes plus esclaves du péché comme autrefois, avant de connaître Christ. Autrefois que notre vie était teint de désobéissance et de péché, puis on s'en foutait comme dans l'an 40, puis on avait bien du fun. Arrêtez de dire que le péché est laid. Pas vrai. Et séducteur. Le péché sent bon. C'est bien fait. C'est cute en petit papa. Je vous le dis. Vivons pas, allons pas dans le déni. Là. Mais réalisons une chose ce matin. Acquitté. Acquitté. Vous êtes passé de l'humanité sous Adam à l'humanité sous Christ, en Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle humanité vivant sur la planète Terre, en étant des citoyens des cieux, en étant des ambassadeurs pour Christ, en étant de ceux qui portent la parole de vie dans leur cœur, nous dit Philippiens, qui est un flambeau qui éclaire. C'est ce que vous êtes. C'est ce que je suis. Acquitté. Plus rien de condamnable, nous dit la vieille version de Luther. Il n'y a plus rien de condamnable en nous par la loi. par Christ et l'accomplissement de la loi. Êtes-vous heureux? Êtes-vous émerveillé de votre grand salut? Vous savez, quand je dis souvent, est-ce qu'on est encore émerveillé de notre grand salut? Moi, la table du Seigneur, je la ferai 3 fois par semaine. Émerveillé de notre grand salut. Plus rien de compte. Appréciez-les, là. Ouais, mais Michel, tu viens de dire que personne que le cœur 100% pur, puis on fait des péchés encore, puis on a un combat spirituel. Oui, oui, on va en parler. Mais avant de parler de ça, il faut vraiment réaliser notre sécurité en Christ. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Il n'y a plus rien de condamnable. Le cri de Paul en 25, « Misérable, qui va me libérer? Qui va m'acquitter? » Qui va me libérer de l'esclavage? C'est ça. Et là, on arrive au bout, là, puis il dit, hey, plus de condamnation. Plus de séparation. La raison de notre acquittement. Unis à Christ. Regardez bien. Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et le verset 2 va mettre l'emphase. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi, comme un thème sur une lettre. On paye. L'esprit m'a affranchi. Ma dette a été payée, si on le voit en termes de dette. Moi qui appartenais à l'humanité sous Adam, esclave du péché, Christ a payé la dette puis m'a emmené dans cette nouvelle humanité. Je ne suis plus redevable à ce vieux maître. Je ne dois pas y laisser la seigneurie de ma vie à ce vieux maître, mais je dois laisser ce nouveau maître. Moi qui est maintenant son serviteur et son esclave, prenant le langage biblique pour les catégories bibliques, c'est que nous sommes maintenant une nouvelle humanité, unie en Christ. Le christianisme biblique est christocentrique, tout le temps. Pas centré sur les idoles, pas centré sur ci ou sur ça. C'est Christ. Nous donne la vie dans l'union avec Christ. Comment est-ce qu'on est arrivé dans l'union avec Christ? Puis, je vais vous demander cette semaine, parce que la semaine prochaine, ça va être assez dur à cause des portraits de cette nouvelle humanité versus l'autre humanité. Si vous n'êtes pas bien assis en Christ ce matin, vous allez être troublé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous personnellement, de manière personnelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Si on lit la Bible, des fois, ça fait plusieurs fois qu'on a lu ça, unis avec Christ. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment, unis avec Christ? Ça veut-tu dire qu'il nous accompagne à l'église le dimanche matin ou à l'assemblée? Ça veut-tu dire que quand on chante des cantiques, il vient uni avec nous, puis quand on s'en va travailler, il se désunit? Vous savez, comme moi, c'est pas ça que ça veut dire, hein? Ça veut dire que unis avec Christ veut dire par la mort expiatoire de Jésus-Christ, celui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché, celui qui a fait de nous cette nouvelle humanité, a fait en sorte qu'il est avec nous 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toute notre vie, et même au-delà de notre vie. Et samedi après-midi, lorsqu'on va faire le service funèbre, on va parler justement de la sécurité en Christ au-delà de cette vie. Unis pour l'éternité. Voilà la valeur du sacrifice de Jésus-Christ. Quand vous allez aux toilettes le matin, quand vous vous cachez dans un garde-robe pour faire un péché que vous pensez que personne ne vous voit, Christ est là. C'est paniquant, hein? C'est paniquant. Mais c'est vrai. On est unis d'une manière légale. C'est une déclaration juridique. Le Père nous a déclaré en Christ, nouvelle humanité, déclarée juste, Et c'est pour cela qu'on est un avec Christ. Et nous marchons pour sa gloire. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? La voie de notre acquittement. C'est cette grande doctrine de substitution que je parle depuis tout à l'heure. Le non-coupable a pris la place des coupables. Et ça, ça jette à terre tous les systèmes religieux tricotés par les hommes. Ça jette à terre toutes vos intentions de plaire à Dieu et de faire des choses pour vous sauver vous-même. Ça jette à terre toute l'imagination des hommes pour remplacer la croix de Christ. Et c'est pour cela que, comme assemblée, comme Église de Dieu, nous avons ce mandat d'annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui nous entourent. Cet angélia, cette bonne nouvelle, c'est une soda de bonne nouvelle. Nous qui méritons l'enfer, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité, en Jésus-Christ, on a été unis en Christ pour l'éternité. Parce que Christ a pris la place des coupables. Et c'est par la foi seule et dans le sacrifice seul de Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu, car nous acceptons la substitution. J'ai regardé l'histoire d'un homme, sans aller dans les détails, on n'a pas le temps, qui était dans un camp de concentration, puis il y avait eu une tentative d'évasion. Et le général du camp a réuni tous les prisonniers, et puis il a choisi 10 numéros, parce qu'il y avait tous des numéros, pour se faire fusiller. Puis il y en a un dans ça qui a écrit un livre, qui a survécu. Et il y a même sur Internet tout ça, si vous pouvez lire les détails. Mais ce n'est pas les noms qui est important, c'est l'action. Et là, il y a un vieux monsieur qui était reconnu comme un homme très serviable, très. Même ils ont fait un saint avec. Là. Mais il a dit au commandant du camp. Je vais prendre sa place. Je suis vieux, malade. Un numéro ou un autre numéro pour toi, je suis certain que ça ne change rien. Donc, OK, il a fait un hochet de la tête puis il a permis que l'autre prenne sa place. C'est un juif. Quand il est sorti des camps de concentration, ça vous, depuis des années, ce qu'il fait, là, il est décédé aujourd'hui. Dans sa cour, il y a une petite statue qui représente le gars. Puis à chaque anniversaire, qui lui rappelle le jour où ce gars-là a pris sa place pour se faire fusiller à sa place, il ne travaille pas. Il s'assit dans sa cour, puis il pense à ce moment-là, comment est-ce qu'il était angoissé, comment est-ce qu'il vivait la peur, puis il suppliait, puis il neigeait dans le temps, puis il suppliait les nazis de ne pas le tuer, je suis marié, j'ai des enfants, s'il vous plaît, non, non, non. Il était angoissé de la mort et tout et tout. Il se souvenait qu'il y avait quelqu'un qui a dit, je vais prendre ta place. Juste le fait de prendre sa place. Pense à ça. Il perd de l'argent, hein? Quand il arrête de travailler, là, il dit à son boss, là, je ne travaille pas aujourd'hui. Il s'assied dans sa cour et il pense à ces moments-là. Voyez-vous, il y a quelqu'un qui a pris notre place. Ça va apprendre hein, de prendre une journée et s'en souvenir. Est-ce qu'on réalise que ceux qui refusent Christ ou ceux qui passent l'éternité, c'est pire qu'un camp de concentration? La substitution, Dieu l'a fait. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est Dieu a fait, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé son propre Fils. Vous allez dire, ah, ben moi, je sais ça, je fais longtemps. Pensez, le non-coupable prend la place du coupable. Dieu d'éternité, Fils éternel de Dieu, jamais séparé de son Père, Dieu qui ne peut pas voir le péché, un Dieu 3x5, comme Jeff nous a dit ce matin, a décidé de venir sur la planète Terre marcher dans cette pourriture de péché. Lui, sans péché, sans défaut, sans tâche, il envoie son Fils. La substitution. Dieu a condamné le péché. Et là, c'est intéressant, le verbe est premier aoriste qui nous dit que c'est une action du passé qui se répercute jusqu'à l'éternité, jusqu'à dans le temps, jusqu'à l'autre bout. Il n'y a pas de fin. C'est que Dieu a condamné le péché passé, présent, futur. Le principe du péché sous Adam a été détruit. On a été blanchi. On est de ceux qui est acquittés, justifiés par le sang de l'agneau. Et nous sommes libérés en même temps de l'esclavage du péché dans la vie de tous les jours, tout en ayant un combat. Et quand on dit la valeur du sacrifice de Jésus-Christ, mes amis, a été émerveillé du grand salut dont nous sommes bénéficiaires, nous voulons dire que quelqu'un a pris notre place, qui a pris nos péchés pour en faire ses péchés, on dit passé, présent, futur. Et c'est ça, le sang précieux de Jésus-Christ, qui nous a sauvés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères et qu'on réalise, ce n'est pas avec de l'argent, mais de l'or qu'on a été racheté, mais par le précieux sang de Christ, celui qui a pris notre place. Et j'aimerais conclure avec cela, trois agents. Trois agents divins dans la libération de la pénalité du péché et, en plus, son pouvoir sur nous. C'est important d'avoir ça cette semaine pour la semaine prochaine. Vous voyez le double, est-ce que je l'exprime clairement, le double libération? Libéré de la pénalité, passer d'une humanité à une autre, puis il nous a donné le pouvoir, il nous a donné la liberté de l'esclavage du péché qu'on avait autrefois. On n'est plus esclave, on est passé dans l'autre humanité. Et le péché n'a pas de droit sur nous, comme autrefois, même si on est encore en combat. Voyez l'idée? C'est ça qu'il faut voir. Dieu le Père est l'agent de notre justification. C'est lui qui déclare juste. Le Saint-Esprit est l'agent de notre sanctification. Et c'est ce qu'on va voir dans Romains 8. Et Jésus-Christ, par qui sa mort rend les deux possibles, justification et sanctification. C'est des grands mots, mais on va voir ça dans les deux prochaines semaines un peu plus en détail. La Trinité entière est venue racheter l'homme. C'est le plan du salut de Dieu. Saisissez et appréciez l'amour du Père qui a donné son seul Fils. Et lorsque Jésus a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On sait pourquoi, un matin, pour qu'il a crié cela. C'est qu'il avait nos péchés sur lui. Qu'il subissait la séparation de son Père à notre place. La loi de l'Esprit, justification. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sanctification. Un combat spirituel, nous, cette nouvelle humanité en Jésus-Christ. Glorification. Aucune séparation. Notre place est au ciel. Assis déjà, Éphésiens 2:6, à la droite de Dieu en Jésus-Christ. Déjà victorieux sur cette terre. Quoique maintenant en combat. Plus de condamnation. Conduit par l'Esprit. Tout en reconnaissant la loi de la chair et la loi de l'esprit qui est dans notre chair, mais on n'est plus redevable. La rédemption de nos corps, Romains 8, 23. C'est ce qu'on va voir un peu plus loin. Plus de séparation. Plus de séparation. Donc, la sainteté, c'est quoi? La sainteté est le but de la justification. Regardez bien. Et c'est le verset, en fin de compte, tout entier qu'on voit là dans le verset 4. 1. On voit la sainteté est le but de la sanctification. Oui, la sainteté est le but de la sanctification. La sainteté est l'accomplissement de ce que la loi exige. Les standards de la loi n'ont pas baissé. La loi est bonne, elle est sainte, elle est correcte, la loi. Il n'y a rien de mauvais dans la loi. Et la sainteté est l'accomplissement de ce que la loi exige. La sainteté, c'est le travail du Saint-Esprit qu'on va voir dans les prochaines semaines. Le travail du Saint-Esprit. Et la sainteté est l'obligation pour le chrétien. La sainteté d'un chrétien n'est pas une option comme l'air climatisé sur un char quand tu vas acheter un char neuf. Est-ce que c'est comprenable de même, s'il vous plaît? Puis là, je ne suis pas en train de vous embarquer sur la loi, mais je suis en train de vous dire que cette nouvelle humanité est caractérisée par la sainteté. Et le sacrifice de Jésus-Christ, la justification, la sanctification, parle justement d'une vie de sainteté. Je ne parle pas d'être des saintes nitouches. Vous comprenez ce que ça veut dire, sainte nitouche? Non, vous ne connaissez pas le terme. Faites la veuve offensée sur tout ce que vous voyez, vous tirez sur tout ce qui bouge. Non, non, non. Sainteté selon Dieu, c'est ce qu'on va voir dans chapitre 8. Très important. Qui a fait tout ça? Conséquence? Notre acquittement, regardez bien. C'est Dieu qui l'a fait. Pourquoi? Pour la justice, parce que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite. La juste exigence de la loi. La loi disait, il mérite la mort. Il mérite la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Il mérite l'enfer. C'est ce que la loi disait. Il ne rencontre pas les standards. Regarde le miroir de la loi, comment vous êtes. Vous n'êtes pas capable d'atteindre cela. Mais Dieu l'a fait en Jésus-Christ. Afin que nous vivions non plus de la manière de l'homme livré à lui-même. Verset 4 est clair. À cause, notre agenda maintenant, c'est la sainteté. On n'est pas livré à nous-mêmes avec notre chair, avec notre combat. Livré à lui-même. C'est plus de même qu'on vit. On va voir ça plus en détail. Mais dans la dépendance de l'esprit, qu'on va voir en détail aussi. C'est quoi vivre dans la dépendance de l'esprit? Pensez-y. Ça veut dire quoi, ça? Arrêter de travailler? Se ramasser tout avec des grands jaquettes sur une île, faire des jardins. Comprenez-vous? C'est quoi vivre dans l'esprit, dans un monde dur à vivre pour un chrétien? Et pourtant, le Seigneur dit, je te prie, Père, de ne pas les ôter du monde, mais les préserver du mal. Ce matin, j'aimerais prendre 30 secondes, terminer avec l'Évangile. Vous êtes probablement quelqu'un, si vous êtes quelqu'un qui ne comprenait absolument rien de ce que je viens de dire, c'est pour vous. Parce que ça commence par la nouvelle naissance. Dans Jean 5, 24, Jésus va dire ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Voyez-vous? Regardez les prochains mots que j'ai mis en couleur. Ne viens point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Quelle sorte de mort? Mort spirituelle, n'est-ce pas? On est encore. C'est un parallèle d'Éphésiens 2. Vous étiez morts dans vos offenses dans lesquelles vous marchiez autrefois. On était des zombies. OK? On était comme des zombies. Et Jésus dit, celui qui écoute ma parole. Pourquoi vous pensez qu'on enseigne la parole de Dieu à l'Assemblée? C'est parce que c'est en écoutant la parole qu'on comprend le salut, qu'on comprend la sanctification, la justification, la glorification, c'est en regardant dans sa parole. Ne viens point en jugement. Plus de condamnation! Est-ce que vous aimeriez vous coucher ce soir en sachant qu'il n'y a plus de condamnation pour vous, que votre place est prête, que vous êtes passé de l'humanité d'Adam à l'humanité de Jésus-Christ? Je vous invite à venir parler avec moi. Ça me ferait plaisir de prier avec vous. Parce que le Seigneur amène une bonne nouvelle à l'humanité. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce temps ensemble ce matin. On remet toutes choses entre tes mains. Et nous voulons prier, Seigneur, pour chacun de nous, Seigneur. Que tu nous fasses réaliser le prix de la grâce. Que tu nous fasses réaliser que nous sommes acquittés, libérés, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Que t'a tout fait pour nous à la croix en ce qui concerne la sécurité éternelle, de nous transférer de l'humanité d'Adam à l'humanité de Jésus-Christ, de partir du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et Seigneur Dieu, nous voulons prier que s'il y a quelqu'un ici ce matin qui ne t'a pas encore accepté, Seigneur, comme sauveur et maître dans sa vie, nous prions que tu touches leur cœur, que tu leur parles, afin qu'eux aussi aient cette assurance qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour eux et jamais ils vont être séparés de Jésus-Christ à cause de la croix, à cause de l'Évangile. Seigneur, parle dans nos cœurs et sépare-nous de ta bénédiction. Amen. Amen.